Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Comme à chaque fois avec Le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, et de vous aider surtout à bénéficier de son expérience pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur Le Gratin Tina Kiefer, qui est fondatrice de l'association Tout à l'école, qui scolarise plus de 1400 jeunes filles défavorisées au Cambodge. Si l'épisode vous a plu et que vous avez été touché par la démarche de Tina, eh bien, n'hésitez pas d'abord à lui dire sur LinkedIn où elle est active, et puis surtout, surtout, n'hésitez pas à soutenir l'association en devenant pourquoi pas parrain ou marraine. Je pense que ça peut vraiment changer la vie tout simplement d'une jeune femme. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et j'espère que vous y serez sensibles. Je l'avoue, pour l'instant, j'avais mis peu de personnalités du monde associatif sur Le Gratin. Pas par préjugé, franchement, mais simplement parce que j'avais pas de contact et de connaissances dans ce milieu. Et puis aussi, je dois dire, je voulais mettre en avant une personnalité et un engagement qui me touchaient personnellement. Et ça a vraiment été le cas avec Tina Kiefer, qui a choisi donc avec l'association Tout à l'école de donner leur chance à des jeunes filles cambodgiennes en leur donnant un accès à une éducation. L'histoire de Tina, vous allez voir, est absolument incroyable. Écoutez, fille de publicitaire, Tina commence sa carrière comme journaliste chez Cosmo. Elle se fait rapidement repérer et travaillera par la suite pour de nombreux supports en vogue, Froufrou à la Belle Époque, Les Grosses Têtes et puis Marie-Claire, dont elle prendra la direction en 1999. Mais c'est en 2005 qu'elle subit un véritable choc, d'ailleurs elle en fera un livre un peu plus tard que je vous mets également dans les notes de l'épisode. En gros, en voyage au Cambodge, elle est touchée au cœur par une jeune fille qui pleure dans un orphelinat. Dans un petit couloir, elle la voit et vraiment elle est profondément touchée. Elle décide alors sur le champ qu'elle ne l'abandonnera pas, qu'elle ne peut pas la laisser sur place. Elle finit donc par adopter la petite Chandara et se lance un défi fou. Accompagner des milliers de jeunes femmes cambodgiennes à sortir de leurs conditions par l'éducation. C'est la création de l'association Tout à l'école. Vous verrez un épisode aussi touchant que juste et qui, j'espère, vous amènera à réfléchir, comme ça a été le cas pour moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Tina Kiefer. Bonjour Tina.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir chez vous.
Oui, exactement. Vous êtes à la maison.
Merci beaucoup de m'accueillir.
On boit un café à la maison.
Et oui, on boit un café. Et j'aimerais parler de tout votre parcours qui est passionnant et peut-être commencer par le vif du sujet, hein, simplement, puisque j'ai lu beaucoup de choses sur vous. Et notamment, j'aimerais commencer par ce fameux jour de 2004 où votre vie a changé, votre vie a basculé, je crois, avec une rencontre. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Une rencontre inattendue au Cambodge. C'est la première fois que je visitais ce pays, que j'ai découvert ce pays qui a changé ma vie. Et j'apportais des vêtements dans un orphelinat et j'ai rencontré effectivement au bout d'une allée une petite fille toute seule qui pleurait. Et cette petite fille, il y a eu une déflagration d'amour. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis dit que c'était pas possible de la laisser là. Elle avait des problèmes médicaux qui faisaient que c'était très, très difficile pour elle de trouver des parents adoptifs. Elle était déjà grande, elle avait à peu près 3 ans. Et j'avais déjà 4 enfants à l'époque, mais c'était vraiment, il s'est passé un truc tellement fort que je me suis vraiment battue pour retourner la chercher. Et elle est arrivée à la maison, donc il y a maintenant plus de 15 ans. Et elle a grandi, hein, maintenant elle a 18 ans. Et donc ça a donné naissance à une école parce que quand je l'ai ramenée en France, son nom d'origine, c'est Chandara. Je me suis dit, il y a tellement de petites Chandara partout qui font la mendicité. Et donc, j'ai eu envie de construire une école. Et à l'époque, comme j'étais à la tête du magazine Marie-Claire, j'avais évidemment quelques leviers. Et donc, j'ai lancé une grande opération pour construire un premier bâtiment. Voilà, et c'est toute une histoire comme ça qui s'est enchaînée.
On va en parler en détail.
justement, en fait, ce que je trouve passionnant dans votre histoire, c'est que vous avez cette déflagration d'amour. Mais beaucoup de personnes, si vous voulez, peuvent à un moment dans leur vie se dire « je vais faire de l'humanitaire » ou « j'ai envie d'avoir une cause » ou « je vais aider ». Et vous, la différence, c'est que vous l'avez fait et que ça fait maintenant quasiment 10 ans en fait que c'est le cas. 16 ans, oui, c'est ça. C'est quand même assez fou quand on y pense. Qu'est-ce qui a fait que pour vous, c'était différent? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est Chandara? Est-ce que c'était parce que c'était l'aboutissement? Qu'est-ce qui a fait?
Alors, peut-être déjà aussi mon métier d'origine, parce que j'étais journaliste et je travaillais dans un magazine engagé. Marie-Claire est quand même un journal engagé pour la cause des femmes et des enfants. Avant, j'avais créé un journal qui s'appelait DS de société, qui était très engagé. Donc, j'étais déjà dans un terreau, mes amis, mon environnement, mon travail. Je me souviens qu'on avait fait des mobilisations contre la peine de mort aux États-Unis. Voilà. Donc, ça m'est pas tombé dessus comme ça. Donc, il y avait vraiment une préparation. C'est pas pour rien que je me suis dirigée vers un magazine comme Marie-Claire, par exemple, ou que j'ai, même quand je faisais de la télé, j'ai fait des débats qui étaient plutôt avec des plateaux de gens très engagés. Donc, et puis ensuite, effectivement, il y a le hasard s'en est mêlé. Et puis, il y a eu la rencontre. Bon, ça paraît banal de dire ça, mais c'est vrai que j'adore les enfants, vraiment, quoi. C'est vraiment un truc très, très fort chez moi. Et cette petite que j'ai vue, ça m'a tellement fracassée que, voilà, il fallait que je l'emmène. On aurait pu dire, bon, elle a 4 enfants, qu'est-ce qu'elle a? Elle travaille déjà comme une dingue.
En plus, vous avez autre chose à faire.
Voilà,
quoi.
C'est ce que m'a dit ma maman, mais ma fille est folle. Voilà, mais bon. Et puis après, vous mettez, c'est toujours pareil, j'ai toujours l'humanitaire, on y met le doigt, on y met l'épaule. C'est-à-dire que, bah, vous commencez à construire une école, vous voyez que ça marche, vous voyez toutes ces petites filles qui arrivent, ça change leur vie, elles se mettent à lire, à écrire, elles s'attrapent un grand sourire, bah, vous continuez, et puis ça devient le campus Happy Chandara d'aujourd'hui avec 1600 élèves, et une grosse machine de guerre. Et une énorme équipe aussi derrière, parce que évidemment, au début, j'étais toute seule, puis des amis, puis un petit groupe, et puis maintenant, bah, c'est une grosse machine.
Donc, si on revient en arrière, entre guillemets, sur le processus, c'est pas très sexy de le dire comme ça, mais à la base, en fait, c'est une histoire d'amour, si je puis dire.
Oui. Et bah, puis, d'ailleurs, en fait, c'est pour ça que le bouquin s'appelait Une déflagration d'amour.
Ouais, c'est
quand
ça.
J'ai écrit ce récit, parce que je ne trouvais pas d'autre nom. C'était une déflagration d'amour dans la mesure où, alors on peut dire déflagration, c'est un peu négatif. Et moi, je ne vis pas comme ça. C'est surtout quelque chose de très fort qui arrive d'un seul coup et que vous pulvérise. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'étais au Cambodge. J'ai été pulvérisée par cette petite. Par le Cambodge, pourtant j'ai voyagé dans ma vie, mais je ne sais pas, il y a quelque chose au Cambodge qui fait que vous n'en sortez pas, vous ne revenez pas indemne de ce pays. C'est un pays qui touche énormément. Et voilà, oui, donc c'est effectivement c'est une histoire d'amour. Mais de toute façon, l'humanitaire, c'est de l'amour quand même. Quoi qu'on fasse comme humanitaire, je pense que c'est de l'amour.
Mais vous n'aviez pas du tout prévu à l'époque d'en faire une vocation, c'est-à-dire d'aider des milliers de femmes, de jeunes femmes à...
Je l'avais limité à mon travail de journaliste qui soutient des causes, c'était le quotidien, on faisait des reportages, etc. Je l'avais limité à ça. Non, je pensais pas. Par contre, dès que j'ai commencé à me dire je vais faire cette école, j'ai bien senti que, surtout une école, par définition, vous prenez des enfants, elles ont 6 ans, vous allez les accompagner jusqu'au bout. D'emblée, j'avais dit, l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à ce qu'elles deviennent des femmes libres et instruites. Donc, je savais que je m'inscrivais dans une sacrée durée. Voilà. Mais bon, c'était... Je me posais pas la question. J'avais une main invisible qui me poussait, qui me pousse derrière. En permanence, je ne sais pas à qui appartient cette main invisible. Mais voilà. Donc, voilà. Mais la main invisible est toujours là.
On la remercie, cette main invisible. On la remercie. Vous parlez justement des débuts et du fait que vous n'aviez pas anticipé tout ce qui s'est passé. J'aimerais revenir sur les débuts pour comprendre justement qu'est-ce que vous avez mis en place initialement. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient se dire, moi aussi, j'ai envie de m'investir. Mais vous, une fois de plus, vous l'avez fait à une échelle, et c'est ça souvent ce qui m'intéresse sur le gratin, à une échelle vraiment très importante, puisqu'on parlera des chiffres après, mais c'est vraiment, vous avez aidé des milliers de femmes, c'est quand même assez incroyable quand on y pense. Donc comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce qu'on se dit à un moment donné, je vais essayer de créer une association, et quelles sont les premières étapes, quoi?
Bah, les premières étapes, d'abord, il y a eu des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer une femme au Cambodge qui était propriétaire d'un terrain. Et quand je lui ai expliqué j'ai envie de faire une école, j'étais venue chercher ma fille à l'orphelinat. Ça avait duré quelques mois, évidemment, de démarches pour pouvoir venir la rechercher à l'orphelinat. Et elle m'avait dit, écoute, si tu fais une école, je peux te prêter un terrain. Il se trouve que je viens d'acheter un terrain. Le hasard, mais c'est incroyable, le hasard dans cette histoire. Le terrain qui était d'ailleurs à 2 kilomètres de l'orphelinat, encore un hasard. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais à l'école à Puy-Chandarin, je passe devant l'orphelinat, c'est dingue. Et d'ailleurs, je scolarise des petites filles de cet orphelinat à Puy-Chandarin. Donc, non, à Puy-Chandarin, excusez-moi, c'est l'école Holy Baby. L'orphelinat Holy Baby. Et donc, voilà, donc ce sont des rencontres. Après, c'est, bon, évidemment, c'est énormément de travail. Ça, ça a été long, en plus, alors ça a été très rapide à monter, mais ça a été lourd parce que j'avais Marie-Claire à gérer. Donc je suis restée à peu près 5 ans à la fois à gérer Marie-Claire et à bâtir une école qui chaque année inscrivait 100 nouvelles petites filles, prenait en charge les familles, construire des bâtiments, etc., etc. C'est pour ça que il y a 10 ans j'ai dit bon, ça faisait 10 ans. Que je dirigeais Marie-Claire, donc je trouvais que la boucle était bouclée, et je me suis dit, de toute façon, ma vie, c'est l'humanitaire, c'est ça qui me plaît, c'est même pas pensable d'imaginer autre chose ou d'arrêter, et donc du coup, j'ai quitté Marie-Claire à ce moment-là, pour ne me consacrer que à l'école à Puy-Chandarin.
À l'époque, comment est-ce que vous vous organisiez, je veux dire, au quotidien? Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on est dirigeant de Marie-Claire, j'imagine qu'on est assez occupé. Et donc, avoir en plus, non seulement une association, mais une association qui est en train de se lancer avec 100 nouvelles petites filles par an, comme vous disiez, c'est juste colossal, en fait, le travail.
Alors, moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais à Marie-Claire. Je dirais que, bon, j'avais bien les manettes en main. Je connaissais bien le journal, je connaissais les rouages, je commençais dans la presse écrite, j'avais 18 ans. Donc voilà, j'avais, je dirais pas un certain automatisme, parce que c'est quand même un gros bateau, mais j'étais détendue, on va dire. J'avais une bonne équipe, une très bonne équipe en place. Marie-Claire était très compréhensif. De toute façon, c'est un journal très féministe. Ils n'allaient pas me reprocher de bâtir une école au Cambodge pour les filles. En plus, ils ont même été partie prenante parce que j'ai lancé une opération La Rose Marie-Claire qui a permis de construire le premier bâtiment où ils ont été partie prenante, etc. Donc, ils ont accepté que je fasse beaucoup de missions au Cambodge. Voilà, bon, j'ai une nature très speed hein, quand même, hein, donc j'essaye de faire les choses assez vite, on va dire. Et puis, je me suis entourée de quelques personnes très précieuses, voilà, petit à petit, pas mal de journalistes au départ. Mais c'est pas un métier si éloigné que ça que le métier de journaliste, parce qu'il faut faire beaucoup d'investigations. Quand vous créez une école comme ça, il faut vous dire, bah voilà, on va les emmener vers quel métier, quelle est la position du pays, vers quoi ils se dirigent. Enfin, vous passez votre temps au début à poser des questions pour apporter des réponses. Donc, c'est très journalistique comme démarche. Et le fait aussi d'avoir eu des amis journalistes et d'être moi-même journaliste, je crois, m'a énormément aidée pour faire cette école. Mais bon, c'est évident que c'est et ça reste énormément de travail. Ouais.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer, parce que finalement, je visualise pas exactement en quoi ça consiste, le quotidien d'une personne qui crée une association telle que Tout à l'école? Ce que je veux dire par là, c'est, je suis désolée de continuer, mais on parlait juste avant que vous commenciez du fait que déjà l'école est à distance, donc est au Cambodge, vous n'êtes pas toujours sur place non plus, donc il y a ce premier point qui est à gérer, et puis il y a tout l'aspect évidemment financement qui est très important, où là aussi je peux imaginer que vous avez un rôle énorme à jouer.
Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, c'est simple, actuellement avec la crise sanitaire, effectivement, j'ai pu y aller, je suis partie 6 semaines en novembre-décembre, je n'y suis pas retournée, il y a des problèmes des obligations de confinement très strictes, hôtel du gouvernement, enfin c'est super compliqué. Donc ce matin, par exemple, j'ai fait 3 réunions à la suite en visioconférence avec le Cambodge. Avec le décalage horaire, c'est pratique. Donc généralement le matin, je le consacre au Cambodge.
Vous êtes au Cambodge le matin.
Je suis au Cambodge. D'ailleurs, quand je finis par raccrocher, j'ai toujours un moment de déstabilisation. Elle me dit non, je ne suis pas au Cambodge. Généralement, j'ai d'ailleurs la voix un peu cassée parce que vous mettez encore plus d'énergie quand vous travaillez par visioconférence que dans une vraie réunion. Mais vous le faites inconsciemment. Dire que vous êtes tendance à appuyer plus fort, à parler plus fort, à être plus convaincante avec vos équipes. Ce qui fait que parfois, je suis un peu saoule.
Un peu chaos.
Voilà. Et l'après-midi, je me consacre effectivement beaucoup plus à la levée de fonds qui est un boulot énorme. C'est monter des opérations. Là, on a créé une opération il y a 2 ans parce que la flamme Marie-Claire n'existait plus. J'ai voulu la remplacer avec quelque chose qui est très actuel, qui est l'arrondi solidaire en caisse. Vous savez, quand vous allez acheter quelque chose, vous appuyez et vous arrondissez. Ouais. Donc, j'ai réuni plusieurs enseignes comme Sephora, Carole, Monoprix, Casino, Etam, et créé un événement qui s'appelle Levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles. Et j'ai commencé ça il y a 2 ans, ça a très très bien marché. Donc ça dure à peu près 2 mois à partir du mi-septembre, juste après la rentrée des classes. Mais tout ça c'est très lourd parce que pour que ça marche, il faut du relais, donc il faut qu'on fasse avec les chaînes de télé. J'ai Anne-Claire Coudray qui est très proche, qui est très très engagée à mes côtés dans l'association, qui fait du relais mais dans son JT, mais elle n'est pas la seule. En plus, moi je pars toujours du principe que la pub doit rien coûter. On est dans une association. Je ne veux pas dépenser d'argent com. Donc, on a eu de l'affichage urbain. Tout ça, ça a été gracieux. Merci Deco. Pareil avec les spots. Dans les cinémas sont fermés, mais on a des spots gratuits sur la Gaumont Pâté. Donc, ça vous demande beaucoup plus de temps. Parce que comme vous n'achetez pas, mais que vous dealez pour que la communication soit toujours gracieuse, ben, c'est évidemment beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de force de persuasion. Mais maintenant, je pense que l'association commence à être assez connue. Les gens voient les résultats, ils se rendent compte que toutes ces petites filles qui sont issues de la grande pauvreté, on a 100% d'admission au bac, le meilleur taux du Cambodge, elles voient l'université, etc. Donc, ils sont rassurés et ils sont fidèles. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes fidèles autour de moi. Et je vous parlais de Carole, par exemple. Carole, ils ont démarré, la marque Carole de vêtements, ils ont commencé la première année, vous vous rendez compte? Ce sont les premiers qui m'ont acheté des roses. Ils sont là plus que jamais. Ils font des t-shirts, ils se démènent, les vendeuses, etc. Pareil avec Sephora. C'est-à-dire qu'en plus, vous rencontrez des gens. Ça, c'est vraiment agréable. Quand j'étais à Maritaire, je rencontrais les annonceurs, évidemment. C'était mon boulot de patronne de presse. Mais c'est des relations qui sont sympathiques, mais c'est toujours un peu mercantile. Hein, parce que vous avez les pages de pub, etc. Puis en plus, moi, j'étais journaliste. Déjà, ça m'amusait pas tellement d'avoir cette casquette. Et après, quand j'ai quitté Marie-Claire et que je me suis mise à dedans, j'ai continué à voir ou rencontrer des nouvelles personnes du côté des annonceurs. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens extrêmement généreux et on n'avait plus du tout les mêmes relations. On a des relations beaucoup plus agréables. D'abord, eux, ils me disent souvent, quand on va les voir pour faire une réunion, pour faire le point, parce qu'ils soutiennent l'association, qu'est-ce qu'on a financé, etc., où en sont les petites. Ils disent « Ah, ça nous fait du bien, on est content d'avoir cette réunion, on sait parce que ça donne, eux aussi ça donne un sens à leur travail ». Donc ça a beaucoup modifié mes relations avec les grandes marques que je pouvais avoir dans le passé.
Ce qui est fou dans tout ce que vous me dites, moi ce qui me frappe là, c'est vraiment deux choses, c'est à quel point créer une association comme vous l'avez fait est entrepreneuriale, à quel point en fait, avec 3 francs 6 sous, avec les moyens du bord en fait, il faut faire des petits miracles au quotidien.
Ah oui, c'est le système D en permanence, et puis ce qui était surtout plus qu'entrepreneurial, bon, je dirais expérimental, c'est que on s'adresse à une population de petites filles issues vraiment de la grande pauvreté, et l'idée de se dire, on va pas simplement leur apprendre à lire et à écrire, on va leur donner une très bonne instruction. Parce que moi, je suis convaincue que quand on vient de la base et qu'on reçoit une très bonne instruction, on peut faire des miracles plus tard, vraiment, et on peut faire bouger son pays. Et ça a été un peu le pari au départ, et je me suis rendu compte que ces gamines, elles avaient une telle motivation, une telle force de résilience, elles ont tellement pas envie de retourner dans les bidonvilles, etc., qu'on a eu des résultats assez spectaculaires. Mais ça a eu demandé aussi d'adapter un programme pédagogique extrêmement réfléchi. On n'a pas appliqué le programme de l'éducation nationale, bien évidemment que non. En plus, on est à l'étranger, on leur apprend 3 langues, c'est-à-dire le khmer, l'anglais et le français. Donc, tout ça demande beaucoup, beaucoup de brainstorming sur la pédagogie. C'est pour ça, c'est en cela que c'est très expérimental. Même nos relations avec les mères, les histoires, les problèmes de planning familial. Parce que quand on voit une maman qui est enceinte du 7e et qui vient nous inscrire la petite dernière, il y a un moment, et qu'elle vit dans un bidonville. Donc, il y a plein de choses en parallèle qu'on a dû monter et qui demandaient à chaque fois de s'adapter à la population, à l'état d'esprit, ne pas heurter les gens, ne pas, vous voyez. Et donc, ça prend aussi beaucoup de temps, mais en même temps, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant.
Ouais, clairement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres aujourd'hui, justement, sur l'association, pour qu'on se rende compte de tout ce qui a été accompli?
Alors, écoutez, l'association, donc, ça démarre au CP. On les inscrit toujours au CP. On veut vraiment que ces petites arrivent très jeunes, parce que on leur apporte l'instruction, mais on leur apporte aussi l'éducation. Il y a quelque chose auquel je tiens depuis le début, c'est ce que j'appelle les cours de valeur, les cours d'ouverture sur le monde. Et ces petites, on leur apprend pas simplement à lire, à écrire, à parler l'anglais, le français, etc. On leur apprend aussi la générosité, le partage, la tolérance. Ça peut paraître un peu comme ça, mais moi j'y crois énormément. Et d'ailleurs, je vois les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que des enfants qui grandissent avec ces valeurs-là deviennent quand même des personnes qui sont animées d'un désir de faire changer les choses, qui sont plutôt très généreuses. Donc, elles commencent au CP. Le campus à Pichandara, où on a donc l'école primaire, le collège, le lycée, un internat, centre médico-social, la cabinet dentaire, l'école de permaculture, je crois que j'ai rien oublié. C'est très, 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 très vaste. Là, nous avons 1200 enfants et un staff d'un peu plus de 300 personnes qui travaillent là.
1200 enfants.
Ouais. Il y a 100 élèves par promotion. Ouais. 4 classes de 25 élèves. Et maintenant, nous avons 3 années de post-bac. Je suis très, très fière d'elles parce qu'elles ont toutes le bac. On s'y attendait pas. Alors, du coup, on les accompagne encore plus longtemps. On a ouvert un premier foyer dans Phnom Penh, la capitale, pour qu'elles soient près des universités. Et là, on vient d'ouvrir un deuxième foyer parce que le premier foyer est déjà plein. Voilà. Donc, et alors là, c'est d'autres questions qui se posent parce que quand elles sont petites, bon, elles sont à Pichandara, elles sont dans un lieu, on les a sous l'œil, etc. Et on a un programme pédagogique qui est très étayé. Quand elles ont le bac, il y en a qui font agro. Il y en a beaucoup qui font agro parce qu'une école de permaculture, on est très défense de l'environnement. Il y en a qui vont être infirmières, qui vont être profs. On en a qui sont très brillantes, qui font médecine, qui font des écoles de commerce. Donc, il faut s'adapter à chacune, il faut leur trouver les meilleures filières en fonction de la demande du pays. Donc, on fait aussi beaucoup d'études sur les métiers dont ce pays a besoin. On est en train de mettre en place, ça a été freiné par le Covid, les très brillantes, les envoyer en France, les envoyer dans l'ASEAN pour faire des études supérieures parce que les universités au Cambodge, parfois, sont pas toujours de top niveau et c'est dommage parce qu'on a quand même des gamines qui sont extrêmement, extrêmement vives. Bon, ça a été vraiment freiné par le... On en a une en France actuellement, mais elle est passée entre les mailles du filet, mais c'est un peu compliqué. Donc, tout ça demande aussi d'autres réflexions. Mais j'ai avec le temps, j'ai de très bonnes équipes sur place. C'est le plus compliqué, c'est toujours ce qu'on appelle les RH, hein, les ressources humaines. En plus, au début, le Cambodge, maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Quand j'ai monté à Pichandara, c'était pas bitumé, on croisait des buffles, on s'embourbait, et c'était très compliqué, hein, pour aller jusqu'à l'école, même si on est à 15 kilomètres de la capitale. Aujourd'hui, c'est une 4 voies. Voilà, le Cambodge, ça pousse à une vitesse incroyable. C'est beaucoup plus facile d'envoyer des personnes, d'envoyer des profs, etc. On a des profs cambodgiens, mais on a aussi des professeurs anglophones et francophones. Donc voilà.
J'allais vous demander justement, quelle a été peut-être la ou les plus grandes difficultés que vous avez eues sur le parcours pour la création de cette association et puis son développement surtout?
Bon, je dirais les RH. Parfois, on n'est pas tombé sur des personnes qui correspondaient à l'ampleur du projet. Et ça c'est dur, hein, parce que quand vous rendez compte que vous avez dans le truc de pilotage, la cabine de pilotage, des personnes qui n'assurent pas ou qui voudraient mais qui n'ont pas les bons réflexes, comme je disais, c'est très expérimental. Donc il faut avoir une grande flexibilité d'esprit pour faire avancer ça. Et vous avez des personnes dans l'éducation nationale qui ont vraiment une grande expérience, mais qui ne vont pas forcément avoir cette flexibilité d'esprit. Donc, je pense que oui, ça a été des moments comme ça, où d'un seul coup, grosse panique, il faut recruter. À un moment, j'ai vécu 2 ans sur place. C'était un moment où il y avait vraiment une poussée de croissance. Donc, c'était important que j'habite là-bas. Donc, je suis partie avec les gamins. Mon compagnon, également de l'humanitaire, travaille pour l'achat de l'espoir. Il est chirurgien cardiaque. Et ça tombe bien parce qu'il a profité de ce moment-là pour créer une unité de chirurgie cardiaque pour enfants au Cambodge. Donc, on a pu partir avec notre Smala. Et ça, c'est bien aussi d'être sur place. Alors là, c'était le contraire. Je faisais à distance les levées de fonds et je prenais l'avion dans l'autre sens pour venir faire les opérations de levées de fonds.
Ces 2 ans sur place, ça a dû être
j'ai adoré.
Incroyable.
Non, j'ai adoré. Et puis pour les enfants, ça a été exceptionnel aussi pour mes enfants. Ça a été une expérience très enrichissante. Et puis là, vraiment, vous connaissez. Bien sûr que je connais bien le Cambodge parce que forcément, quand vous montez une école comme ça, vous connaissez de l'intérieur. Mais quand vous vivez en plus 2 ans sur place, forcément, vous avancez d'un cran encore. Donc, c'était vraiment bien.
Tina, il va falloir qu'on parle aussi du reste, parce que malgré tout, vous avez eu une vie avant tout à l'école, quand même.
Je ne suis pas si jeune que ça.
Et puis une vie bien remplie, surtout, parce que vous n'avez pas rien fait. Vous n'avez pas du tout rien fait. J'aimerais bien revenir au tout début. Vous nous avez dit que vous aviez commencé le journalisme autour de l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée dans la marmite? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été attirée par ce secteur?
Ce qui a fait que je sais, c'est que j'ai pas fait d'études. C'est-à-dire que je suis le contre-exemple de ce que je fais au Cambodge. C'est pas par hasard d'ailleurs. J'ai passé mon bac quand même, bien sûr. Mais j'étais pas très facile comme adolescente. Je m'entendais pas formidablement bien avec mes parents à cette époque-là. Et à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis partie. Voilà. Je suis partie, j'avais un amoureux, je suis partie à Lille, j'allais faire la fête, etc. Ça a duré 1 an comme ça. Et puis au bout d'1 an de fête, quand même, une petite voix intérieure m'a dit que bon, Et quand même, c'était pas un bon plan de continuer comme ça. Et à ce moment-là, j'ai une chance, parce que c'est vrai que la chance compte dans la vie, et c'est que mon père travaillait dans la pub et connaissait l'équipe de Cosmopolitan, qui était un magazine à l'époque très drôle, un féminisme impertinent, avec des sacrés tempéraments dans la rédaction. Et moi, il me dit, écoute, je lui dis, bon, d'accord, je rentre, etc., mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Il me dit, qu'est-ce qui t'intéresse? Où est-ce, dans quoi tu aimerais travailler? Et je lui dis, moi, il y a un magazine que j'achète tous les mois, il me fait hurler de rire, c'est Cosmo. Je trouve ça très drôle, et puis comme j'aime bien écrire, voilà, je pourrais peut-être faire un stage. C'était plus simple à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'une convention de stage. Donc, je pars faire un stage bénévole à Cosmo. Et ça se passe bien parce que d'un seul coup, je découvre, j'étais entre Catherine Pancol, Juliette Boisriveau,
Vous aviez des personnalités incroyables, en plus. Vous aviez des personnalités incroyables autour de vous.
Des pétroleuses pleines d'humour qui écrivaient bien. Et moi, j'allais photocopier les articles. Et je me disais, c'est quand même vachement bien. Puis j'écoutais les conférences de rédaction. On m'avait mis dans la rédaction, donc j'ai fait l'éponge. Et très rapidement, on m'a envoyé aux conférences de presse où on n'avait pas envie d'aller, etc. Et très rapidement, je faisais des petits papiers pour la rubrique Cosmo dit tout. C'est quand même très mignon. Des petits papiers de 6 lignes. Et puis, bon, je pense que j'ai un truc avec l'écriture, donc Juliette Boisriveau m'a repéré. Puis je me souviens qu'après, j'ai fait des papiers de plus en plus longs. Et je me rappelle que le premier grand papier que j'ai fait, ça se terminait par « J'ai 20 ans bientôt ». Donc, vous voyez, et c'était un papier où j'avais exploré les coulisses du métier de top modèle. Donc, voilà. Donc, j'ai appris le métier vraiment sur le tas, en ayant la chance d'être entourée par des femmes brillantes, drôles, avec beaucoup de tempérament. Et donc, je suis restée à Cosmopolitan à peu près 7-8 ans. Voilà. Et après, j'ai écrit des scénarios pour la télé. J'aimais beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le scénario.
Oui, vous êtes passé sur du scénario de sitcom, notamment, si je me trompe
Exactement.
Pas.
Exactement. Je faisais des séries les années FM sur la radio libre, sur M6, etc. Et c'est là que j'étais appelée par Ardisson pour l'émission Foufrou, qui a mis un frein. Et parfois, je me dis, bon, ça a été génial la télé parce que ça m'a donné une notoriété qui m'a permis de faire plein de choses. Mais je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais continué dans le scénario et je pense que j'aurais adoré scénariste, réalisatrice, c'est-à-dire créer la vie, raconter une histoire et la mettre en vie. Ça vraiment, bon, alors du coup, je suis partie complètement dans une autre direction. Je suis partie à la télé. Et puis, la télé a duré 4 ans. Il y avait plein d'avantages à faire de la télé, mais c'était pas non plus ma tasse de thé. Et donc, j'ai eu envie de revenir dans la presse écrite. Et donc, j'ai quitté TF1 pour créer un magazine qui s'appelait DS, de société, qui a plutôt bien marché. Je me souviens que le premier exemplaire, on avait vendu plus de 200 000 exemplaires, le premier numéro, où Valérie Lemercier était photographiée par Dominique Isserman, nue en couverture, mais c'était très stylisé.
Pas mal.
Et donc, ça avait bien fait parler. Et puis, au bout de 2 ans, Marie-Claire m'a appelée pour créer une nouvelle formule de Marie-Claire. Voilà.
Et en prendre la direction.
Et ce qui est amusant, parce que Cosmo, c'est le même groupe.
Ouais.
Quand je suis rentrée à Cosmo, j'avais même pas 18 ans, je crois.
C'est fou.
Je voyais bien l'étage de Marie-Claire. Marie-Claire, c'était l'institution.
Le Graal.
C'était le Graal. Oui, oui. Et ce qui est drôle dans la vie, c'est que quand la première fois que j'ai été à peine 18 ans me présenter toute tremblotante à la directrice de la pub du groupe, Marie-Paul Laval, hyper gentille, qui m'a reçue de façon adorable et qui m'a décroché ce stage et qui est devenue une amie, même si elle est plus âgée que moi. Eh bien, 20 ans plus tard, pratiquement, à 15 jours près, c'est elle qui m'a appelée à DS pour me demander de venir reprendre le Marie-Claire.
C'est incroyable.
Et aujourd'hui, Marie-Paul est vice-présidente de mon association. On est très proches, on s'appelle tous les jours. C'est dingue, hein, quand même, parcours comme ça.
Comme quoi les rencontres.
Voilà, donc elle travaille plus depuis un certain temps, mais elle met toute son énergie, son carnet d'adresses pour m'aider à lever des fonds et réfléchir aussi sur la pédagogie.
Ça m'amène à vous poser une question que j'avais en tête, qui est-ce que vous avez eu des mentors, hommes ou femmes? On voit bien à quel point votre parcours, et comme beaucoup de monde, hein, sont vraiment parsemés de rencontres. C'est le cas avec Chandara, mais c'est le cas aussi là peut-être avec Marie-Paul.
Si j'ai eu des mentors, oui, bien sûr, j'ai eu des mentors. Juliette Boisriveau, qui dirigeait Cosmopolitan, qui était une femme incroyable, qui ressemblait beaucoup physiquement à Diane Keaton dans Annie Hall, qui écrivait divinement bien. J'ai jamais compris pourquoi elle n'avait pas écrit un livre. Je pense qu'elle avait un problème de trop forte humilité. Il disait toujours, mais je n'ai rien à raconter, alors qu'elle écrivait sublimement bien et qu'elle avait beaucoup, beaucoup de profondeur. Oui, ça a été un mentor, ça. Marie-Paul, bien sûr, qui m'a accompagnée. Après, c'est plus des femmes, dans les femmes connues. Oh, j'ai été marquée par un livre, même si je connais bien sûr sa vie. J'ai lu le livre d'Annick Cogent sur Gisèle Halimi, qui est sorti il y a moins d'un an. Et ça, c'est quand même... Alors, je m'en souviens un peu quand j'étais toute petite de l'affaire du procès de Bobigny, mais bon, j'étais trop petite à l'époque. Et quand j'ai lu l'histoire de cette femme qui a grandi en Tunisie, je crois, dont la maman était dans la cuisine, et le parcours d'avocate brillantissime, comment elle a, à une époque quand même, c'était une sacrée nana, vraiment une femme absolument incroyable. On lui doit d'ailleurs aussi à elle beaucoup aussi, à Simone Veil, mais à elle aussi le droit à l'IVG.
Bien sûr. Vous décidez finalement de quitter, on parlait au début de l'interview du fait que vous aviez fini par quitter Marie-Claire, donc. Est-ce que ça a été une décision difficile? Est-ce que vous pourriez m'en parler? Parce que quand même, quitter la direction d'un magazine aussi prestigieux, quand en plus on comprend avec votre parcours que c'était quand même un aboutissement assez intéressant pour la petite fille journaliste. Comment est-ce que cette décision est venue?
Pas du tout. Mais j'ai toujours pris les décisions très rapidement dans ma vie. Ça a été la même chose quand j'ai quitté TF1. Les gens n'ont pas bien compris pourquoi je quittais TF1. Même si Marie-Claire, c'est prestigieux, c'est pas du tout le même niveau que quand vous avez un débat à TF1, à l'époque, en plus de la télé. Mais je pense que quand je décide de tourner la page, je la tourne immédiatement. Je crois que je dois maturer le projet sans m'en rendre compte au niveau de mon subconscient. Donc ça se met en place. Et le jour où, ping, ça ne vient
pas. La décision est prise.
Il faut que j'appuie sur le bouton. En plus, Marie-Claire, ça faisait 10 ans. Moi, je suis quand même quelqu'un. Pour moi, la vie, ce sont des plateaux. Mais je ne peux pas rester plus de 10 ans à un endroit. Je pense que là, c'est incompatible avec mon horloge biologique.
Bah, on sent qu'il faut que ça pulse.
Voilà. Il faut que ça bouge. Donc, 10 ans, je trouvais que c'était bien. C'était un contron. Vraiment, je l'ai fait. J'ai vraiment adoré m'occuper de Marie-Claire. Je me revois à genoux sur la moquette de la rédaction, à monter les sujets, les visuels, etc. J'adore l'image, j'adore le photojournalisme. Donc j'ai vraiment ce côté créatif que j'ai moins retrouvé par la suite. Vous avez votre création, vous la mettez plus sur le côté expérimental, il faut monter quelque chose, etc., stratégie. Mais vous êtes moins dans la création artistique. Il y avait quand même une dimension de création artistique dans mon approche de journaliste. Donc ça, peut-être que par la suite, parfois, et même encore aujourd'hui, ça manque un peu, le côté création artistique. Mais sinon, je suis partie, je dirais pas sans me retourner, parce que j'avais des amis là-bas et que sans problème.
Bah alors, dimension artistique quand même encore présente, parce que malgré tout, vous avez écrit un livre qui est sorti en 2019. Pourquoi écrire ce livre ?
Une déflagration d'amour. Alors d'abord, pourquoi j'ai écrit une déflagration d'amour? D'abord parce que cette histoire est tellement forte en moi que j'avais envie à un moment de la mettre sur le papier. Parce que comme j'ai une vie qui va très très vite et je suis la tête dans le guidon, vous avez un truc fort, mais vous n'avez pas le temps de le... Que déjà vous êtes sur autre chose et l'école qui grandit, etc., etc. Donc je pense qu'il y avait un moment où j'avais besoin de faire un arrêt sur image. Il y avait aussi besoin de laisser à ma fille Chandara, qui s'appelle Théa aujourd'hui, un témoignage, parce que moi, elle ne connaîtra jamais, elle saura jamais qui sont ses parents. Et je trouvais utile, pour après, qu'elle ait une trace de son histoire, qui s'appelle en plus une déflagration d'amour, pour quelqu'un qui, au début, a eu un peu des petites pannes d'amour. Moi, je me dis que ça peut l'aider dans des moments difficiles plus tard, même quand elle sera vieille, voilà, qu'elle ressortira le bouquin. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je venais d'écriture, donc c'était un plaisir de me remettre, d'écrire ce récit et de le revivre aussi dans les détails, dans tout ce que j'ai ressenti de si fort à ce moment-là.
Vous qui aimez, j'ai l'impression, vivre à 200 à l'heure, est-ce qu'il y a des moments quand même où vous avez besoin de faire des pauses? Des moments où quand même...
Mais j'aime vivre à 200 à l'heure, mais je peux être très très paresseuse pendant les vacances ou pendant le week-end. Non, mais sérieusement. Non. C'est tout l'un tout l'autre. Non. Quand je décide de me coller devant une série, je me colle devant une série. Comment?
On ou off.
Voilà, je suis exactement ça. On off, oui, c'est absolument ça. Non, ne croyez pas ça. Je suis pas une... Sacanoviste. J'ai une grosse puissance de travail. Ça, c'est indéniable. Mais j'aime bien aussi contempler. J'aime bien la contemplation.
Je voulais revenir encore une fois sur la mission humanitaire de tout à l'école. Déjà, pour comprendre pourquoi vous aviez choisi de centrer vos efforts sur l'éducation des jeunes filles. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée?
Les enfants. Parce que ce sont les enfants et que la meilleure façon d'aider un enfant, c'est de lui apporter l'éducation. Qu'en plus, c'est une cause qui n'est pas trop anxiogène. Vous voyez, moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui œuvrent, par exemple, dans des unités de soins palliatifs pour enfants. Quoi. Rien que d'imaginer, mais je suis au-dessus de mes forces. Vous voyez, là, l'éducation, vous prenez un enfant, il va pas bien, il est un peu cabossé par la vie. Bah après, il a le sourire, il se met à pousser comme une fleur. Donc, je ne suis pas assez solide intérieurement, je pense, pour affronter la maladie des enfants, pour être sur des, ou avoir fait de l'humanitaire, urgentiste, dans des pays en guerre. J'aurais pas eu la solidité. L'éducation, bah voilà, ça permet, c'est utile. Et en même temps, c'est pas trop dur, quoi.
Je comprends. Et vous avez eu des idées reçues, des idées préconçues sur l'humanitaire qui ont été battues en brèche par votre expérience?
Il y en a beaucoup d'idées reçues sur l'humanitaire. Moi, je pense que l'humanitaire, il y a des humanitaires. Il y a des associations. C'est difficile de dire l'humanitaire parce que je dis toujours un peu vulgairement, il y a à boire et à manger. Le Cambodge, il y a à boire et à manger. Il y a des associations qui font un boulot formidable. Et puis, il y a pas mal de, aussi, il y a des babacool glandeurs qui ont trouvé la planque. Voilà. Donc voilà. Donc moi, ce dont je me suis rendu compte, je m'en doutais de toute façon, c'est que c'est beaucoup de boulot. Et qu'il faut être encore plus exigeant que quand on dirige une société. D'abord parce qu'il y a la vie des gamins. En plus, l'argent, c'est pas l'argent des actionnaires, c'est l'argent des donateurs qui croient en vous. Donc, il faut mettre des trucs dans tous les... Voilà. Peut-être que l'exigence est encore plus grande que ce que je pouvais imaginer dans le passé et que les gens imaginent. Parce que les gens, ils me disent « Oh, c'est cool, t'as beau... Oh, moi, je voudrais payer des cols. » Bon, quand on me dit ça, je souris un peu parce que c'est pas cool. Non, c'est pas le terme. C'est passionnant, mais c'est tout sauf cool, vous voyez. Donc, peut-être, oui, c'est énormément d'engagement. Voilà.
Vous dites de l'exigence, ça m'intéresse parce que effectivement, étant moi-même entrepreneur, en fait, si j'avais su quand je me suis lancée, je pense que je ne l'aurais probablement pas fait. À quel point c'était du travail, du temps, de l'exigence. C'est quand même fou quand on y pense. Ouais. Et je me dis, pour vous, c'est la même chose probablement, encore puissance 1000 parce qu'à une échelle mondiale. Mais typiquement, ça serait quoi comme exigence? Ça serait sur quoi finalement que votre attention doit être complètement focalisée pour que ça marche?
Surtout, elle doit être sur la pédagogie parce que c'est l'ère de la guerre. On fait pas tout ça pour que ces petites se plantent. C'est sur l'élevé de fonds parce qu'il faut que l'argent tombe. C'est sur le contrôle des fonds. Mais pour ça, il y a le commissaire aux comptes Mazars. On a le label du don en confiance. J'ai des gens autour de moi qui sont des gens de vrais financiers, qui, eux, surveillent les comptes, les conseils d'administration. Tout ça, c'est très, très structuré. Et ils ont très bien compris que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'administratif. Donc, j'ai des gens très, très compétents qui s'occupent de ça. Et moi, je m'occupe de la pédagogie, de trouver l'argent. Je suis pas la seule à m'occuper de la pédagogie. Hein. J'ai toute une équipe aussi autour de moi, de gens complémentaires, qui ont des tas de qualités, etc.
Déjà, la pédagogie et trouver l'argent, c'est quand même une énorme paire de manches. Surtout que trouver l'argent, c'est
difficile en ce moment.
Déjà, en ce moment, je peux imaginer que c'est difficile. Et puis, c'est tous les ans, parce que contrairement à une entreprise qui quand même en génère, là, vous êtes obligé de renouveler en permanence.
Contrairement à un hôpital, à la limite, je parle pas des hôpitaux en France, mais ou même d'un orphelinat, à la limite, vous avez moins d'argent, vous accueillez moins d'enfants. Là, quoi qu'il arrive, chaque année, on en a 100 de plus et on va pas leur dire, les petites, au milieu du guet, on n'a pas d'argent, tu vas rentrer chez toi. C'est pas possible.
Aujourd'hui, ça représente combien la nécessité de fonds pour l'association annuellement?
On est à peu près à 4,5 millions par an. Alors, c'est pas que la pédagogie pure. Parce que je pense que si on a le résultat avec les petites, qu'elles ont toutes le bac, qu'elles vont toutes à l'université, c'est parce qu'on est dans une approche globale. On ne leur apprend pas simplement à lire, à écrire et à faire de très très bonnes études, mais on se débrouille pour que leur famille aille mieux, pour que la communauté aille mieux, qu'elles ne soient pas dans un conflit de loyauté quand elles sont dans le superbe campus à Pichandara, entouré de bidonvilles. Là, par exemple, on a un gros problème avec la dernière mousson qui a détruit beaucoup de maisons dans les donc là je suis en train de relancer la construction. On aimerait construire une cinquantaine de maisons qu'on va reconstruire, mais c'est important parce que la vie de ces enfants ne commence pas quand elles passent le portail de l'école. Et puis dans la communauté autour, même si les enfants ne vont pas à l'école, on va pas dire toi je t'aide pas parce que ta fille n'est pas à l'école à Pichandara. Donc du coup, vous passez votre temps à ouvrir une porte, et il y a une autre porte, et une autre porte. Et tout ça, c'est pour le bien. Puis il y a un centre médico-social qui est important aussi. Il y a un cabinet dentaire. Dès la deuxième année, on s'est dit, il faut un cabinet dentaire. Elles arrivaient, elles avaient toutes les dents, elles avaient les dents pourries. C'est pas possible. On avait une petite, je me souviens, elle avait 11 problème d'abcès, ouais, même abcès dans la bouche. Donc, c'est tout ça, forcément, ça coûte de l'argent. Mais moi, je filme beaucoup tout ce que je fais, parce que c'est important, les donateurs sont principalement ici en France ou au Luxembourg. C'est très important de montrer concrètement ce qu'on fait, de même que j'ouvre les portes à tous les parrains. Ces petites filles peuvent être parrainées par des particuliers, ça coûte 35 euros par mois, c'est pas grand-chose en tout cas. La déduction fiscale, donc ça, à l'arrivée, ça doit faire 12 euros. Et je dis toujours aux parrains, on dit aux parrains, si vous avez le bonheur d'aller au Cambodge, parce que c'est un pays génial à découvrir, venez. Et normalement, en dehors de la crise sanitaire, on a à peu près 80 parrains qui viennent visiter l'école, qui rencontrent leur petite, qui va dans la famille de la petite, qui déjeune avec les profs, vous voyez. Et ça, c'est bien. Et puis, ça fait un effet tom-tam, parce qu'ils repartent, ils sont très contents, ils voient à quel point c'est sérieux. Et donc, du coup, ils en parlent autour d'eux, etc.
J'ai l'impression qu'une des clés qui a fait quand même votre réussite au-delà de votre passion, c'est votre énergie qui a l'air d'être quand même assez débordante. Et surtout quand on voit que c'est quand même un peu un puits sans fond, parce qu'on peut toujours faire plus.
C'est un peu un puits. C'est un puits sans fond, mais je vais vous dire une chose. Les résultats que j'obtiens avec ces jeunes filles. Hier, je regardais, j'ai une de mes élèves qui a passé le bac et qui fait l'Instituto Marangoni à Paris, qui est une grande école de mode. Elle est venue pendant un an, invitée, gracieusement, ça coûte une blinde, donc ça aurait été un peu compliqué, on ne peut pas privilégier à ce point-là un seul enfant. Elle m'a envoyé hier son dossier, mais je me dis, mais comment cette petite que j'ai connue, j'ai une image d'elle, on l'avait filmée au début où elle racontait, je suis contente, c'était traduit, elle parlait même pas l'anglais à l'époque, d'être ici parce qu'ici on me donne à manger. Voilà, elle vient vraiment, et que je vois, parce que j'essaie de la faire rentrer pour faire un stage de 6 mois chez un couturier, et que je vois son approche de la mode, ses croquis, sa réflexion, je me dis, mais c'est incroyable, la force qu'ont ces gamines. Alors j'en ai, c'est pareil, j'en ai une qui fait du génie civil, j'en ai qui ont peut-être pas toutes ces facultés, mais qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, et qui vont aussi avoir des métiers utiles, ou des métiers dans lesquels elles vont s'épanouir. Et ça c'est dingue, et ça vous pousse, mais énormément, vraiment. Ça, c'est vrai que c'est l'énergie, la passion, mais moi je crois que c'est d'abord la passion, et la passion, elle est nourrie, parce que ça marche. Voilà. En fait, ça marche. Au-delà de ce que j'espérais. Je n'aurais jamais imaginé que les petites qui ont passé le portail en 2006, 7 novembre 2006, toutes malingres, etc., elles seraient aujourd'hui à l'université, qu'elles auraient toutes eu le bac, elles parlent l'anglais, je rêve de parler l'anglais avec leur accent. Malheureusement, j'ai un problème à ce niveau-là, etc., quoi. C'est impressionnant. Et donc, du coup, vous continuez, bien évidemment. Et puis, je suis entourée. J'ai toute une équipe avec moi, avec des gens vraiment formidables. Donc, tout ça, ça... D'ailleurs, j'aimerais un peu remercier 2 secondes.
Allez-y.
Véronique Darras, Christiane Saunier, Marie-Paul Laval, Sabrina Erlori, on en a parlé. Marie-Josée Rubini, qui, elle, dirigeait Carole il y a 16 ans. C'est la première qui m'a fait confiance. Il m'a dit, je vous achète 20 000 roses. Je démarrais, je tâtais le terrain. Bon, elle fait partie du conseil d'administration, c'est devenu une amie. Donc voilà, Sandrine Lanfield, enfin des gens comme ça qui m'aident aussi bien au niveau des fonds que pour faire fonctionner l'école. Quoi. C'est une aventure humaine, vraiment.
Tina, pour terminer l'interview, j'aime assez parler de quelques petits sujets personnels. Vous pouvez me parler tant de votre vie professionnelle que d'événements plus familiaux. La première question que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez vécu un échec marquant qui vous a appris quelque chose de fort que vous pourriez partager avec nous ?
Alors oui, j'ai sûrement vécu des échecs. J'ai un petit caractère qui fait que j'aurais tendance à ne pas trop m'apesantir dessus, même si c'est très formateur. J'avais écrit un long métrage au moment où j'écrivais des sitcoms juste avant Foufou, que j'avais montré à des jeunes producteurs qui avaient trouvé ça bien. Ils étaient inconnus à l'époque, et puis après, ils ont produit La vérité si je mens, donc ça, tout allait bien pour eux. Et puis finalement, ce truc-là n'a pas abouti. Je pense que ça a été un échec, ouais, quelque part. Je pense que j'aurais été très heureuse si j'avais... Il y a plein d'autres métiers que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé peut-être aller plus loin dans l'écriture, ouais. Vraiment, j'aurais aimé... J'envie les gens qui peuvent se mettre derrière leur ordinateur et s'évader et de construire des histoires comme ça. C'est quelque chose de formidable.
Et celui-ci, il vous a appris quelque chose, peut-être, sur vous-même ?
Oui, c'est que j'étais pas capable, sûrement. J'étais pas... Qui devait me manquer, même si... J'ai pas de souci avec l'écriture même, ça, je le sais. Mais au niveau de la structure, au niveau, je sais pas. Puis bon, après la vie aussi m'a emmenée. Je me suis peut-être laissée aussi éblouir comme un papillon par l'aventure froufrou. Donc je suis partie là-dedans, mais en même temps, bon, ça aurait été un peu con de pas y aller pour alors que rien n'avait vraiment commencé de l'autre côté. Parfois, je me suis posé la question. Je me suis dit, si j'avais pas été à la télé, j'aurais continué dans le scénario. C'est vrai que j'aurais adoré réaliser. J'aurais adoré c'est quelque chose qui doit être génial.
Peut-être un jour un documentaire pour
Non, pas un documentaire, parce que ça, à la limite, bon, que j'ai fait de la télé, j'ai monté pas mal de reportages. Non, une histoire fictive, une histoire qui sort de là et qui parle d'émotions et qui parle de sentiments. Pas quelque chose qui raconte ce qui existe déjà. Quelque chose qui crée la vie. Voilà, ça m'aurait beaucoup plu. Ouais. Puis j'aurais adoré aussi être architecte. Je suis passionnée de déco, d'architecture, ça oui. Ben c'est pas un échec, ça c'est parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, donc on peut pas faire plusieurs choses à la fois. Non, c'est des échecs, j'en ai eu des échecs, bien sûr. Moi, j'ai tendance à pas me. Oui, bien sûr. J'ai fait des émissions dont j'étais pas fière, des débats qui partaient pas comme je voulais, qui avaient pas forcément des bons scores. Oui, il y a eu plein de trucs comme ça. Mais bon, de toute façon, on est dans un rythme. Heureusement, on continue et on avance, parce que sinon.
Une autre question que j'ai mis à poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, si c'était à refaire, que vous referiez différemment ?
Difficile de vous répondre. À part, effectivement, est-ce que j'aurais pas continué Mais en même temps, si j'avais continué scénario pour aller dans ce sens-là, j'aurais peut-être pas fait l'école.
Mais c'est ça.
Parce que je ne serais pas devenue journaliste engagée, et puis j'aurais pas eu, et puis je serais partie vraiment dans un autre univers.
Ouais.
Peut-être ça. Peut-être ça. Mais non, j'ai pas tellement de regrets.
Ben vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous parle, qui vous porte, que vous répétez, enfin qui sont importantes pour vous ?
J'en avais une que j'avais marquée sur mon mur quand je faisais de la télé. Comme disait, c'est pas possible, ça m'énervait. Alors j'avais écrit, si c'est possible, c'est déjà fait. Si c'est impossible, il faut le faire. J'avais comme des boires pour me dire qu'il y avait un truc qui n'était pas possible. Genre le tournage à faire en dernière minute, je sais pas où, etc. Ouais. Je monte le texte derrière.
C'est pas mal.
Et donc, du coup, ça décourageait et les gens évitaient de me dire que c'était impossible. Je parlais un peu du principe, effectivement, que tout est possible, même si avec l'âge, on a tendance à se rendre compte que c'est pas si vrai que ça. C'est toujours un peu plus difficile que quand on a 30 ans, évidemment, et qu'on a plein d'inconscience et une énergie de dingue.
Autre question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensiez qui s'est avéré faux, c'est-à-dire une croyance, si vous voulez, sur laquelle vous auriez changé d'avis avec le temps ?
Oh ben, il y en a certainement plein. Mais vous savez, on change tellement. Parfois, quand je pense à qui j'étais à 20 ans, j'ai l'impression que ce n'était pas la même personne qu'aujourd'hui. Je me souviens de flashbacks, même dans ma vie personnelle, j'aurais pas réagi comme ça, c'est pas moi. Donc, bien évidemment, que beaucoup de choses, j'ai eu des tas de certitudes qui ont volé en éclats, de même que j'en ai encore aujourd'hui, quelque chose me dit que je me plante. Et je pense que je les remettrai en question un peu plus tard. Oh, j'en ai trop pour pouvoir vous dire, beaucoup. Bah, vous voyez, par exemple, un exemple. Quand j'étais très jeune, j'étais pour la peine de mort. Parce que je m'arrêtais au truc, oh, c'est terrible ce qu'on a fait à un enfant. Et donc, la réaction très premier degré. Puis évidemment, après j'ai grandi, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit non, une société peut pas donner cet exemple-là. Une société ne peut pas tuer alors qu'on explique qu'il ne faut. Okay, voilà. Et j'ai même été jusqu'à mobiliser fortement contre la peine de mort aux États-Unis avec Marie-Claire, etc. Et c'était quelque chose qui me semblait évident quand j'avais 22 ans, vous voyez, parce que la vie ne m'avait pas encore permis de réfléchir à plusieurs niveaux. J'étais complètement uniquement dans la réaction émotive, émotionnelle. Donc, comme plus on grandit, plus on apprend de choses, forcément, évidemment, il faut garder ses émotions, hein, sinon c'est triste. Mais on se met à réfléchir autrement et du coup, ça balaye beaucoup de certitudes. Ouais.
Je vous remercie pour cette sincérité. Et la dernière question que j'ai bien posée, je pense qu'elle va vous parler, parce que c'est au sujet du livre. Et je crois que vous êtes une grande lectrice. Est-ce que
non,
il y a un livre?
Ah bon? Jamais.
Ah bon? Bah alors, donc.
J'ai jamais le temps. J'arrive pas à rentrer dans les histoires. Non, faut pas exagérer. J'ai lu, là, 3 livres de 600 pages quand j'étais confinée au Cambodge. Mais c'est une exception. De Pierre Lemestre, il s'appelle. Celui qui a écrit Au revoir là-haut.
J'ai pas lu.
Il a écrit 3 livres. Qu'est-ce qu'il écrit bien? C'est formidable. J'ai été aspirée par. par cette trilogie. Mais généralement, je ne lis pas parce que j'ai pas le temps, parce que je suis tout le temps sur mes mails. Je le regrette et que je n'ai pas cette, j'arrive pas. Je crois que je suis trop happée.
Bah alors, le livre, ça peut être une musique, ça peut être un film, ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a, on va dire, une œuvre d'art, qui vous a particulièrement marqué et pourquoi?
Une œuvre d'art qui m'a marquée, pourquoi?
Ça peut être un livre, hein. Un livre qui vous a... Normalement, je pose plutôt la question sur les livres. C'est-à-dire
ouais,
un
c'est
livre qui vous a
vraiment... sur les livres. Alors, j'ai quand même lu dans le passé, faut pas exagérer. Mais j'ai tendance un peu à oublier ce que j'ai lu. Et pourtant, j'ai lu de très, très bons livres. Mais j'ai pas de souvenir, à part celui-là récent, parce qu'il est pas vieux, justement, et que j'ai vraiment adoré. J'ai pas de souvenir sur les livres. Je serais incapable de répondre à cette question. Moi, je suis plutôt bouleversée par la nature, généralement, que par l'œuvre humaine. Je veux dire, les vraies grandes émotions que j'ai, ça va être... j'ai un truc très fort avec les arbres. Voilà, ça va être la nature, ça va être la montagne, etc. En même temps, il y a de très grands films. J'ai revu il n'y a pas longtemps, même si le réalisateur porte la polémique. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai revu le pianiste. Mon Dieu, mais que la scène de fin est tellement sublime. Enfin, il y a des choses. Mais j'ai beaucoup de mal à vous restituer comme ça un souvenir précis.
Aucun problème, Tina. Je vous remercie mille fois pour votre temps. Si on veut vous retrouver, si on veut retrouver l'association, si on veut peut-être soutenir l'association.
Bien sûr, Toutes à l'école.
Toutes à l'école. Est-ce qu'il y a un contact où
oui,
on peut
bien
le faire?
Sûr. Ben, il faut aller sur toutesàl'école.org.
Ouais.
En plus, en ce moment, on est en train de reconstruire des maisons. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a plein de petites vidéos. Vous allez voir comment où vivent les enfants. C'est absolument épouvantable. Vraiment, avec la mousson qu'il y a eu. Donc, on a besoin, on cherche toujours des parrains. Là, on va inscrire. En plus, j'ouvre une école maternelle. Jusqu'à présent, on commençait au CP, mais j'ouvre une école maternelle. Donc, ce qui fait que cette année, on va inscrire encore 100 petites filles en plus. Donc, là, nous avons besoin de parrains et de marraines pour parrainer toutes ces petites pitchounes. Et puis, bon, le parrainage, c'est 35 € par mois, c'est rien.
Voilà, j'allais vous dire, en fait, voilà. Peut-être pour que ça soit désacraliser la chose, c'est-à-dire que tout le monde, d'une certaine manière, peut participer. On n'est pas obligé d'être à la tête d'un grand groupe pour le faire.
Les trois quarts de nos parrains, ce sont des personnes, c'est monsieur et madame tout le monde, qui ont un cœur qui bat et qui se disent, bah voilà, même si j'habite à Trifouille-les-Oies, je vais, par prélèvement automatique, aider une petite. Alors, nous, on envoie les résultats scolaires, on envoie des photos, etc. Et généralement, ils collent la photo avec le magnète sur le frigo. Et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le principe des petites rivières qui font les... C'est exactement comme ça. Et c'est d'ailleurs la façon la plus saine de faire marcher une association. C'est le parrainage. Parce que ça ne coûte pas d'argent. Moi, je dis toujours, faut pas mettre d'argent dans la com et dans ces trucs-là. Et ça ne coûte pas d'argent. Les parrains, ils sont fidèles, ils sont tout le temps là, ils sont pérennes.
Ben voilà,
et je les remercie.
Le message est passé. Merci Tina.
Merci beaucoup.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.